à toutes et à tous, merci d'écouter RFI. Il est 3h en temps universel, 2h de plus à Paris.
Léa Boutin-Rivière.
Une vie sans accès à l'électricité, à la nourriture, aux soins, aux médicaments, c'est la réalité des habitants de la bande de Gaza, privés depuis 2 mois, jour pour jour, ce vendredi, de toute aide humanitaire, un blocus d'une durée inédite. Le cap des $50 de pension de retraite dépassé, c'est l'annonce en grande pompe hier du président vénézuélien Nicolas Maduro. Sauf qu'à y regarder de plus près, seule la prime offerte par le gouvernement augmente. La retraite, elle, reste fixée à $1,50 par mois. Et puis 1er mai oblige, des manifestations ont éclos un peu partout à travers le monde hier. Illustration à venir en Centrafrique et en France. Khan Younes, Gazaville, Deir el-Bala, autant de localités touchées hier par de nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza. D'après la défense civile de l'enclave, 29 personnes au moins ont perdu la vie. À ces destructions quotidiennes, il faut ajouter le manque criant de ressources. Cela fait 2 mois tout juste aujourd'hui qu'Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire à Gaza. Ni médicaments, ni carburant, ni nourriture et aucune ouverture en vue. Reportage signé Rami El-Megari à Gaza avec Sami Bourrelifa à Jérusalem.
Une vieille marmite cabossée entre les mains, Om Mohamed repart avec une ration de soupe de lentilles. Sur place, les Gazaouis appellent ces distributions alimentaires des tikiya.
Je passe ma vie à courir de tikiya en tikiya pour nourrir mes enfants. Il y a encore quelques rares aliments sur le marché, mais c'est hors de prix. Pour nous, c'est inaccessible. C'est pour ça que je viens au tikiya. C'est le seul moyen que j'ai de nourrir les 10 personnes qui sont à ma charge.
Selon l'ONU, 3000 camions chargés d'aide humanitaire sont aux portes de Gaza. Refus catégorique d'Israël de les laisser passer. Résultat, de plus en plus de Gazaouis sont dans le besoin, raconte Om Mohamed.
Tous les jours, je viens faire la queue ici. Parfois, ça marche et je repars avec un peu de nourriture. Mais parfois, il y a trop de monde et il n'y a plus rien à manger. Aidez-nous, les pays arabes doivent exiger la fin de ce blocus. Nos enfants n'ont rien fait pour mériter ça.
À Gaza, quasiment 1 million de personnes dépendent aujourd'hui de ces tikiya, selon l'ONU. Hiba a 2 petites filles et 2 petits garçons. Pour cette mère de famille, Israël utilise la famine comme arme de guerre.
Ce qui est primordial aujourd'hui, c'est la réouverture des points de passage. Au moins qu'ils laissent passer de la farine et des légumes. Mes enfants sont chétifs, avec des corps tout frêles. Parfois, ma fille s'écroule tellement elle est faible. On est épuisé, je n'arrive même plus à porter un bidon d'eau. Ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on souffre de malnutrition.
À plusieurs reprises depuis le début de la guerre, Israël a interdit l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Mais c'est la première fois que ce blocage dure aussi longtemps. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourrelifa, Jérusalem, RFI.
L'Organisation mondiale de la santé s'est insurgée hier d'une abomination, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a répété de son côté que le but suprême de l'armée reste de vaincre le Hamas. Les négociations, quant à elles, sont au point mort. Puissant coup d'accélérateur en revanche cette semaine dans les pourparlers entre Kiev et Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce jeudi un accord véritablement équitable, 2 jours après la signature d'un compromis sur les sous-sols de l'Ukraine. Le texte donne aux entreprises américaines un accès à l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz. Il prévoit aussi la création d'un fonds d'investissement commun entre les deux pays. 100 jours après son arrivée au pouvoir, Donald Trump se réorganise, terminé la présence de Mike Waltz à la sécurité nationale. Le conseiller du président hérite d'un poste moins exposé, moins prestigieux aussi, celui d'ambassadeur auprès des Nations Unies avec en toile de fond un scandale de plan militaire partagé par mégarde. Du changement dans l'équipe donc, pas dans les objectifs. L'administration Trump a demandé hier à la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, de l'autoriser à révoquer le statut de protection temporaire accordé à quelques 350 000 Vénézuéliens. Les personnes qui en bénéficient ne peuvent légalement pas être expulsées. Le gouvernement a tenté une première fois d'annuler une proposition, une prolongation de ce statut avant d'être retoqué par un juge californien. Et au Venezuela, justement, les anciens travailleurs bénéficieront désormais d'une retraite plus élevée. C'est l'annonce faite hier par le président Nicolas Maduro. Les pensions atteindraient à présent les $50. Mais en réalité, Alice Campagnol, ce n'est pas la retraite en tant que telle qui augmente, seulement la prime d'État qui s'élevait jusque-là à $45.
L'annonce a fait son effet. Des retraites qui passeraient de 1,5 à 50 dollars, une augmentation substantielle. Mais le diable est dans les détails. En réalité, c'est une prime étatique pour les retraités qui est augmentée de 5 dollars. La retraite, tout comme le salaire minimum au Venezuela, reste bloquée à moins de 2 dollars par mois, et ce, depuis 3 ans. Lisette González de l'organisation Provea nous explique l'importance d'une hausse du revenu de base.
Il faut remarquer que le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation du salaire minimum impacte les revenus des travailleurs malgré les primes. Les prestations sociales ne prennent pas en compte ces aides, le calcul des vacances par exemple, etc. etc.
Nicolas Maduro affirme qu'avec toutes les aides de l'État, un salarié du secteur public peut gagner jusqu'à 160 dollars. Oui, mais le panier moyen d'un ménage de 4 personnes au Venezuela atteint les 530 dollars par mois. Lisette González.
Pour la majorité des Vénézuéliens, il est très difficile de pouvoir s'acheter des aliments et 40% de la population vit en insécurité alimentaire.
Avec le retour des sanctions internationales au Venezuela, annoncé par Donald Trump, la situation économique risque certainement de se dégrader et la possibilité d'une augmentation du salaire minimum s'éloigne encore. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Cette annonce, en tout cas, est intervenue dans un contexte particulier, celui du 1er mai, fête internationale des travailleurs, l'occasion pour ces derniers de manifester dans de nombreux pays à travers le monde, États-Unis, Royaume-Uni, mais aussi Centrafrique. L'avenue des Martyrs à Bangui s'est emplie de milliers de manifestants hier, fonctionnaires, sociétés civiles, diplomates et même représentants des autorités, tous réunis au sein de cette grande fête populaire, qui est aussi l'occasion, Rolf-Steph Domialeux, de revendications.
Agrémenté par les fanfares de la police, les travailleurs centrafricains militaires et civils ont paradé avec fierté sur l'avenue des Martyrs. 55 ans après l'indépendance de la République centrafricaine, certains travailleurs des secteurs publics et privés ont noté des avancées dans leur travail. Claudia Nguyombo est fonctionnaire au ministère du Tourisme.
La politique gouvernementale dans le secteur touristique et artistique m'a beaucoup plu. Le président de la République a tenu sa promesse en intégrant les artistes, ce qui n'a jamais été fait depuis l'indépendance.
Mais pour de nombreux travailleurs comme Blondin, cette journée symbolise également la prise de conscience et l'amélioration des conditions de travail.
Les autorités doivent prendre à bras le corps la situation des travailleurs depuis l'indépendance. Les salaires n'ont jamais été revalorisés et nous travaillons dans des conditions pénibles.
Et pour relever ce défi, le gouvernement propose des solutions. Annie-Michel Mwanga est ministre du Travail.
Le gouvernement a entrepris le processus de révision du Code du travail. Sa finalité est de donner une nouvelle impulsion aux actions visant la création d'emplois productifs, la formation professionnelle et amélioration de la capacité d'absorption de la main-d'œuvre, le développement de l'entreprise privée et programmes spécifique de création d'emplois.
La République centrafricaine compte au moins 25 000 fonctionnaires selon un cadre au ministère de la fonction publique. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Et les travailleurs français n'étaient pas en reste puisqu'ils ont manifesté eux aussi. Ils en ont profité pour rendre hommage à Aboubacar Cissé, ce Malien de 22 ans tué de plusieurs coup de couteau, alors qu'il priait dans une mosquée. La justice a ouvert une enquête pour meurtre avec préméditation. Rien, en revanche, du côté du parquet national antiterroriste. Les proches de la victime comptent donc porter plainte aujourd'hui pour acte de terrorisme. Maître Yacine Bouzrou est l'un des avocats de la famille.
Je n'ai pas vu, moi, de dossier récent où le caractère terroriste est aussi évident. Il y avait une intention de créer la terreur et de faire peur aux gens, et c'est la raison pour laquelle il a filmé son acte et l'a diffusé en direct sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle une revendication. Si ça avait eu lieu dans un autre lieu de culte, dans n'importe quel autre endroit, le caractère terroriste aurait été retenu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et donc là, le parquet national estime que ce n'est pas le cas. En d'autres termes, le parquet national antiterroriste considère que des fidèles dans une mosquée, aucune mosquée ne peut pas être victime d'un acte de terrorisme. Juste pour information, la dernière fois que la justice antiterroriste a été saisie, c'était la semaine dernière pour des incendies de véhicules devant des prisons. Donc on a aujourd'hui un parquet national antiterroriste qui ne respecte pas le droit et qui choisit ses victimes selon des critères politiques ou des critères dus à certaines religions. Et c'est pas normal, c'est pour ça que nous saisissons un juge d'instruction indépendant afin que celui-ci se prononce sur le caractère terroriste.
L'avocat maître Yacine Bouzrou, vous écoutez RFI, il est 5h10 ici à Paris.